participer à l'effort pour réduire le réchauffement climatique et faire face en même temps à nos besoins énergétiques sans avoir recours aux produits pétroliers dont les réserves s'épuisent.
Certains pays comme la Chine, qui disposent d'importantes réserves de charbon, en tout cas pour les 250 ans à venir, sont en train de développer cette filière, pourtant très polluante car très émettrice de gaz à effet de serre. Mais pour certains pays, le recours au charbon pourrait être très acceptable s'il devenait propre, c'est-à-dire si on captait et stockait les gaz qui posent problème, le gaz carbonique, pour qu'il ne soit pas libéré dans l'atmosphère. Le charbon propre, un dossier de Sepide Farkande, qui s'est tout d'abord entretenu à Karisham, dans le sud de la Suède, avec Philippe Palling, le directeur CO2 de chez Alstom.
Charbon dans la production d'électricité dans le monde?
Le charbon représente environ 35% de la production électrique dans le monde. Par contre, il est responsable de 70% des émissions de CO2. On a le gaz aussi pour une bonne trentaine de pourcents. Donc la production électrique d'origine fossile, c'est plus de 60% de la part de l'électricité. Bon, il y a un peu d'électricité produite avec des fuels. Donc c'est vraiment la chose à laquelle il faut s'attaquer en priorité, c'est les émissions de la production électrique du charbon, sachant que le gaz est émetteur également de CO2.
Et quelle est la tendance?
La tendance est au maintien de l'utilisation du charbon dans l'électricité. On a de grands pays charbonniers comme la Chine et l'Inde qui continuent à croître sur la base de leurs réserves charbonnières.
Combien de tonnes de CO2 émet une centrale à charbon?
Une centrale à charbon de grande taille émet donc jusqu'à 5 millions de tonnes de CO2 par an.
L'idée du captage du CO2, c'est de réduire l'émission dans l'atmosphère d'un gaz à effet de serre.
Ben, toutes les centrales qui utilisent des combustibles fossiles, hein, que ce soit des centrales qui marchent avec du gaz ou du charbon, émettent du CO2. Et donc l'idée ici, comme les centrales sont de grands émetteurs de ce CO2, c'est d'aller capter le CO2 dans les fumées des centrales, de le comprimer et de l'envoyer dans des couches géologiques profondes. Il y a trois grandes classes de procédés pour le captage du CO2. On peut le faire avec des procédés de post-combustion, comme son nom l'indique, on va le faire après la combustion. Donc là, on va laver la fumée avec un solvant qui est recyclé en permanence. Et on récupère le CO2 de ce solvant, on le comprime et puis on l'injecte dans les couches géologiques. Le deuxième procédé, c'est un procédé d'oxycombustion. Donc là, on sépare l'oxygène de l'air et c'est avec cet oxygène qu'on va faire la combustion dans la chaudière. Et donc, le produit de cette combustion, c'est du CO2 avec de l'eau. Donc il suffit de condenser l'eau et on a récupéré notre CO2 pour pouvoir le stocker. Et la troisième classe de procédés, c'est des procédés de gazéification du charbon qui sont beaucoup plus complexes parce qu'on a besoin de fabriquer de l'oxygène, de gazifier le charbon. Ensuite, on a toute une série d'étapes pour séparer le CO2. On récupère de l'hydrogène et c'est avec cet hydrogène qu'on va, dans une turbine, produire de l'électricité.
Mais est-ce que ces procédés sont déjà prêts ou en cours de vérification, d'expérimentation?
Déjà sur des centrales de 30 MW, on est en train de faire la mise à l'échelle industrielle de ces procédés-là. On pense faire les premiers démonstrateurs à grande échelle, donc sur des grandes centrales, ce genre de centrale qui peut fournir une ville type Marseille par exemple, centrale de 800 MW. On pense avoir ces premières démonstrations en 2015 et à partir de là, on pourra commercialiser la technologie. Donc c'est vraiment pour demain à l'échelle du développement industriel électrique.
Donc ce captage du CO2, ça va se faire essentiellement sur des centrales nouvellement construites. Comment ça va se passer? Ou alors, est-ce que ça va concerner les centrales qui existent déjà?
Alstom s'attache à développer des technologies qui vont être adaptables sur les centrales existantes. C'est très important pour le déploiement industriel précoce de ces nouvelles installations. Mais naturellement, ces installations-là s'adressent également à toutes les centrales neuves qui vont être construites à partir de maintenant.
Et est-ce qu'il y a des difficultés pour implémenter en fait ces technologies sur des centrales déjà existantes?
Ce sont des technologies qui prennent pas mal de place. Il faut compter 30% d'espace en plus par rapport à la place qui est occupée par la centrale. Donc il y a d'abord une contrainte d'espace. Ensuite, il y a une contrainte d'agencement de la centrale. Et il faut que cette installation puisse s'insérer dans le contexte de la centrale. centrales. Et puis, troisièmement, il faut qu'il y ait des solutions pour le stockage qui soient à proximité de la centrale. Donc on transportera le CO2 sans doute sous forme de pipeline vers les endroits de stockage appropriés.
Mais est-ce que les infrastructures de transport existent déjà ?
Les infrastructures de transport, bon, ce sera essentiellement des pipelines. Donc ça, ce sont des choses qui sont faciles à construire et dont l'industrie a tout à fait l'expérience.
Et bon, j'ai cru comprendre aussi que le rendement de la centrale baissait quand on effectuait ce captage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel pourcentage correspond cette baisse du rendement et à quoi elle correspond tout simplement dans le cycle ?
C'est exact. On a besoin d'énergie pour le captage du CO2. C'est une énergie qui est d'abord nécessaire pour capter le CO2 lui-même et une énergie qui est ensuite nécessaire pour comprimer le CO2, pour pouvoir l'injecter très profondément sous la terre. Donc cette énergie va être pompée sur la centrale et donc va représenter une perte de rendement pour la centrale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moyenne des centrales installées dans le monde tourne à environ 30% de rendement. Il est déjà possible aujourd'hui de faire des centrales équipées de captage qui vont dépasser cette moyenne mondiale. On tournera sans doute autour de 35-36% avec captage. Donc il est déjà possible à la fois d'améliorer le rendement des centrales et de faire le captage du CO2.
En ce qui concerne le stockage, comment s'effectue le stockage ? Dans quelle zone ?
Une des grandes options de stockage, ce sont les aquifères salins. Donc ça, ce sont des zones géologiques, des bassins sédimentaires. C'est là où la mer se trouvait avant. Et donc ce sont des zones sous la terre où on a un mélange par exemple de sable ou de calcaire, mélange avec de l'eau salée, donc des anciennes mers qui se retrouvent emprisonnées si on veut sous la terre. Et ces zones-là sont très vastes et on peut y injecter le CO2 qui va se dissoudre dans cette eau et faire une sorte d'eau salée gazeuse sous terre. Et c'est la solution première qui est envisagée pour stocker ces grandes quantités de CO2. Il y a des exemples déjà en cours de route à grande échelle. On a une plateforme en mer du Nord, Sleipner, qui injecte déjà depuis plus de 10 ans 1 million de tonnes de CO2 par an, avec grand succès, dans un aquifère salin de ce type-là. On a d'autres expériences en Norvège, dans le désert algérien également, et au Canada aussi, qui injecte des quantités de l'ordre du 1 million de tonnes par an. Il y a d'autres solutions de stockage. Une solution évidente et qui va être utilisée, qui est déjà utilisée, c'est de réinjecter le CO2 dans des puits de gaz ou de pétrole épuisé. Donc ça se fait déjà. Le CO2 permet même d'en récupérer plus du pétrole parce qu'il a la propriété de rendre le pétrole beaucoup plus soluble. Et donc il y a des méthodes de récupération assistée du pétrole grâce à l'injection de CO2. On peut injecter donc le CO2 dans des puits de gaz de la même façon qui sont épuisés. Total va lancer une expérience de ce type à Lac bientôt. On a une expérience de ce type qui est en cours en Allemagne également sur un site Almark avec une installation pilote Alstom et un gisement de gaz épuisé dans lequel on injecte le CO2. Seulement, les capacités de ces gisements ne sont pas suffisantes pour l'ampleur de ce qu'on envisage à long terme. Et donc, c'est pour ça qu'on se dirige vers ces solutions d'aquifères salins. La solution d'injecter le CO2 au fond des océans est également regardée. Mais là, le CO2 ne serait pas confiné. On l'injecte donc sous pression. Et comme il est plus dense que l'eau, il resterait au fond de l'océan. Mais là, les scientifiques ont de grandes craintes d'acidification de l'océan, qui est un phénomène qui est déjà en train de se produire et que personne ne souhaite évidemment aggraver.
Est-ce que les centrales électriques équipées de cette technologie de captage ne consomment pas plus d'eau douce que les centrales thermiques actuelles ?
C'est une bonne question. Les centrales, en effet, ont besoin d'eau pour fonctionner parce que cette eau sert au refroidissement. Donc, ce n'est pas de l'eau qui est vraiment consommée, c'est de l'eau qui sert au refroidissement de la centrale et donc qui, par ce refroidissement, s'évapore et remise à l'atmosphère. Et l'ajout de solutions de captage de CO2, comme je l'ai dit, consomme de la puissance de la centrale. Donc, si on veut compenser cette puissance perdue, il faut ajouter de la puissance. Et donc, on comprend que si on ajoute de la puissance, on ajoute également du besoin de refroidissement. L'ajout de ce besoin de refroidissement est de l'ordre de 25-30% et entraînera un peu plus d'évaporation d'eau et donc de consommation d'eau, en effet.
Pour en revenir à des questions un peu plus économiques, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la place, en fait, d'Alstom sur le marché ?
Alstom est un grand constructeur de centrales, numéro un au monde des centrales clés en main, tant au gaz qu'au charbon. charbon. Donc on a identifié très tôt le problème du CO2 comme un problème qui était en train d'arriver. Donc on a lancé nos programmes de recherche et développement sur les solutions de captage de ce CO2. Et depuis 2006, on a des programmes très très bien organisés pour arriver avec des solutions commerciales en 2015, ce qui semble être la date à laquelle les réglementations vont commencer à imposer ce captage sur les centrales thermiques. Et donc Alstom est prêt à répondre à cette demande future. Les plans de développement sont en cours. Nous avons 4 pilotes pour le moment en état de fonctionnement. Nous travaillons sur plus de 10 démonstrateurs pour le moment, dont certains à grande échelle pour un démarrage et être prêts en 2015.
Et les pays émergents réfléchissent aussi sur ce captage du carbone ?
Oui, tout à fait. On a notamment la Chine commence à y réfléchir. Il y a déjà un pilote en cours et en fonctionnement près de Pékin. Ils ont des programmes également de gazification du charbon qui envisagent également le captage du CO2. Et j'ai confiance qu'il y aura des programmes bilatéraux qui vont se mettre en place entre l'Europe, les États-Unis, une alliance pacifique également avec l'Australie pour pouvoir aller de l'avant également en Chine, qui est un grand pays consommateur de charbon pour la production d'électricité.
Dans le parc en fait des centrales à charbon, quel est le pourcentage qui devrait être renouvelé d'après vous complètement et équipé entièrement de cette technologie de captage ?
Le parc des centrales thermiques, tant en Europe et qu'aux États-Unis, est assez vieillissant. On a plus de 60% des centrales qui ont plus de 30 ans d'âge, sachant que la durée de vie d'une centrale c'est 40-50 ans, on est face à une vague de renouvellement de centrales là, dans le futur proche, qui aura un double effet d'améliorer l'efficacité de ces centrales d'une part, et qui nous donne l'opportunité également de concevoir le remplacement de ces centrales directement avec du captage et du stockage de CO2 intégré. Donc ça serait pour les 20 prochaines années à venir. La Chine s'embarque déjà dans un ajout de capacité de centrales. Ils utilisent pour ce faire déjà des centrales performantes. 80% des ajouts de centrales en Chine sont des centrales supercritiques, donc aux dernières normes au niveau de la performance. Il est tout à fait envisageable demain de réhabiliter ces centrales avec du captage, à condition qu'on trouve des sites de stockage adéquats en Chine. Et pour ça, les études ont commencé également. Je pense que le captage sera rentable à partir du moment où on a un prix du carbone qui permette de le faire. Donc en fonction du prix du carbone, les industriels feront leurs calculs pour les distances de transport, mais le gros de la dépense va être sur l'installation de captage elle-même, pas tellement sur le transport ni le stockage.
Et quel devrait être le prix de la tonne de CO2 pour que cette technologie soit rentable ?
Les premières estimations montrent qu'on va pouvoir construire les premières grandes installations avec un prix de la tonne de CO2 entre 60 et 90 euros. Bon, vous connaissez le prix aujourd'hui qui tourne autour de 10 euros, donc avec les conditions de prix actuelles du carbone en Europe, ce n'est pas possible de faire ces centrales. C'est pour ça qu'il y a des plans de subventions, d'argent public qui sont mis en place par l'Europe pour pouvoir justement démarrer cette technologie. Donc on pense, notamment avec les négociations de Copenhague cette année, qu'on va s'acheminer vers des prix du carbone qui vont monter. Et à l'horizon 2015, on a bon espoir qu'on sera à des prix acceptables qui vont permettre l'installation de ces centrales. D'autre part, la technologie va évoluer rapidement. Donc il y a un effet d'apprentissage industriel qui est très très fort dans les premières années et on espère pouvoir réduire le coût de cette technologie autour de entre 30 et 50 euros la tonne de carbone évitée.
Impossible d'attendre, selon Greenpeace, que le prix du carbone monte et que la technologie du captage soit rentable pour réduire de façon drastique les émissions de CO2. Pour Émilie Johan, chargée de campagne climat chez Greenpeace, le captage du carbone risque même d'être un remède pire que le mal.
Malheureusement, le changement climatique n'attend pas le prix de la tonne de carbone, donc il faut absolument le devancer. Les décideurs du monde entier vont aller à Copenhague dans quelques mois. On attend qu'ils prennent des décisions fortes. On sait très bien quels sont les enjeux. On sait que la communauté scientifique demande des décisions extrêmement fortes. Il faut absolument que les pays industrialisés, par exemple, réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2020. C'est une réalité qu'on ne peut pas laisser confronter au simple bon vouloir du marché. Le charbon, c'est la première source de production d'électricité mondiale, très clairement. C'est la seconde source de production d'énergie et la première source d'électricité.
Mais alors du coup, est-ce qu'on peut s'en passer ?
On peut s'en passer, on doit s'en passer. Aujourd'hui, le charbon, c'est aussi la façon la plus polluante et la plus émettrice de CO2 de produire de l'électricité. Ça émet plus de CO2 que le pétrole, plus que le gaz par unité d'énergie produite. Donc il faut absolument s'en passer.
Est-ce que la technologie du captage du carbone à la base dans les centrales électriques de nouvelle génération, ça vous semble convenir ?
Le principal défaut pour nous, clairement, c'est qu'il ne répond pas à l'urgence. Et nous devons absolument baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés dès 2020. Donc c'est vraiment extrêmement rapide. Or, le captage et le stockage ne sera disponible commercialement qu'à 2030. Ça, c'est le premier écueil de cette solution. Ensuite, il y a d'autres problèmes. Le captage et le stockage va nécessiter un surcroît d'énergie. Donc ça va faire baisser le rendement des centrales thermiques, puisque c'est un processus industriel qui demande de l'énergie. Donc c'est autant de CO2 qui va être émis, et on ne sait pas aujourd'hui réellement quelles sont les possibilités de stockage, quels sont les risques en cas de fuite. On peut imaginer que finalement la solution soit pire que le mal et que ça émette d'autant plus de CO2. Donc pour nous, c'est vraiment pas une solution viable et disponible aujourd'hui. Les conséquences, c'est qu'on continue à produire du charbon et à utiliser des énergies fossiles en pensant à cette solution hypothétique du captage, et qu'on n'ait pas assez de place pour capter tout le CO2 qui risque d'être émis si on continue à en émettre et à en émettre dans une logique tendancielle qui ne s'arrête plus, et qu'on n'arrive pas à capter tout ce CO2 et surtout à le stocker, et donc finalement il y ait plus de CO2 qui soit rejeté dans l'atmosphère, et donc que les conditions et les conséquences climatiques en soient terriblement affectées.
Est-ce qu'on peut, en fait, en 2015, est-ce que c'est possible, c'est envisageable de renoncer au charbon dans la mesure où les pays émergents, par exemple, mais les États-Unis également, utilisent le charbon de manière abondante?
Faire baisser ses émissions, ça ne veut pas dire arrêter tout à coup toutes les centrales fossiles. C'est une sortie progressive du système énergétique basé sur les énergies fossiles dans lequel nous sommes et qui est responsable des changements climatiques qui doit être fait. Ça va se faire progressivement, mais ça doit se faire aussi via des investissements technologiques dans les bonnes solutions. Et les bonnes solutions, c'est l'efficacité énergétique, ce sont les énergies renouvelables, qui sont les énergies de demain, qui sont des énergies durables, qui sont des moyens de consommation de l'énergie propre et rentable. Et c'est vraiment dans ces solutions-là qu'il va falloir investir. Il ne faut pas se tromper aujourd'hui et aller investir dans des solutions hypothétiques et qui vont être trop tardives, comme le captage et le stockage de carbone. Aujourd'hui, il y a tout un panel d'énergie renouvelable qui est déjà disponible, que ce soit l'énergie éolienne, l'énergie marémotrice, l'énergie solaire. Toutes ces énergies renouvelables, à elles seules, elles sont capables de produire 6 fois la consommation actuelle mondiale d'énergie, et ça dans une durée indéfinie. Donc on voit bien quel est le potentiel très riche des énergies renouvelables. L'efficacité énergétique nous permet également de répondre à la demande énergétique et même à une demande croissante en consommant moins d'énergie et donc en émettant moins de CO2. Donc c'est dans ces solutions-là qu'il faut investir. C'est sûr pour ces solutions-là qu'il faut opter dès aujourd'hui, puisque ce sont des solutions qui sont déjà viables, qui existent déjà, contrairement au captage et au stockage de carbone, par exemple. Il y a beaucoup d'investissements dans les pays en voie de développement, dans l'efficacité énergétique, entre autres, dans les énergies renouvelables, et ce sont des investissements qui vont être d'autant plus rentables. L'efficacité énergétique, ce sont des investissements qui rapportent plus d'argent, par exemple, qu'ils n'en demandent pour être mis en place. Donc c'est déjà des solutions qui sont mises en place dans les pays en voie de développement et qui doivent l'être de plus en plus pour pallier à la crise climatique. Mais c'est vrai également en Europe, où on continue à consommer du charbon et à envisager de nouvelles centrales, alors qu'il y a des solutions d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable qui sont rentables et qui existent déjà. Donc c'est vraiment un défi mondial et qui doit être pris en charge par tous les pays, et surtout les pays historiquement responsables du changement climatique, que sont la France, que sont l'Europe en général. Un des gros problèmes aussi plus idéologiques presque du captage et du stockage, c'est qu'on reste dans le même système énergétique basé sur les fossiles et qu'on continue dans cette voie-là qui nous a mené à la crise climatique dans laquelle on est, et qu'on ne se pose pas la question du changement nécessaire de modèle énergétique. Le prix du charbon a doublé en quelques années, c'est une ressource qui reste limitée, alors qu'on a des potentiels d'efficacité et d'énergie renouvelable, et donc infinis, qui sont énormes.
On ne peut pas concevoir le captage carbone comme une technologie de transition, d'après vous ?
Pour nous, ce n'est pas une technologie de transition, au sens où on a déjà les technologies de demain qui sont déjà disponibles. Donc c'est vrai que c'est un peu un non-sens d'attendre que le captage et le stockage de carbone soient disponibles. Le fait est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de centrale ni de projet à grande échelle qui soit équipé de systèmes de captage et de stockage qui fonctionnent. C'est une réalité. limité. Le PNUD nous dit que le captage et le stockage ne sera pas disponible commercialement avant 2030. L'Agence internationale de l'énergie parle de la moitié du siècle. Voilà, ce sont des faits sur lesquels on s'appuie et il ne faut pas non plus se leurrer et autoriser des nouvelles centrales qui soient équipables dans un futur plus ou moins proche de ce système. Et donc pour nous, c'est absolument pas une technologie de transition. Il y a déjà les technologies d'avenir qui existent aujourd'hui. Donc ce sont dans ces technologies-là qu'il faut investir et pas dans une technologie qui n'arrivera qu'après la bataille climatique, malheureusement.
Sur quoi il faut miser ?
D'abord, réduire notre consommation autant que possible. Donc ça, c'est de la sobriété énergétique. Il faut de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire consommer mieux avec moins, c'est-à-dire des appareils qui, pour le même service énergétique, vont consommer moins d'énergie, donc demander moins d'émissions de CO2. Et il faut des énergies effectivement propres et durables. Alors ça va être du solaire, ça va être des fermes éoliennes, ça va être du solaire thermique. Il y a tout un panel aujourd'hui qui est déjà disponible et Greenpeace a sorti un scénario qui s'appelle Révolution énergétique qui montre que grâce à ces solutions combinées, on peut réduire de moitié les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc ça nous trace vraiment un chemin. On voit qu'aujourd'hui, un monde sans captage, sans carbone, sans nucléaire, c'est possible et qu'il y a vraiment des solutions qui permettent d'arriver aux réductions d'émissions de CO2 et de gaz à effet de serre qui sont nécessaires. Une des excuses de l'industrie qui promeut les centrales thermiques à base de charbon, c'est de continuer à construire des centrales en disant qu'elles vont pouvoir être adaptées au captage et au stockage de carbone dans les années à venir. Or, c'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a aucune centrale qui est équipée de ce mécanisme et que ça va notamment être très peu rentable économiquement. Donc, il ne faut pas attendre aujourd'hui que la tonne de carbone atteigne des sommets. Il faut agir maintenant avec les technologies qui sont disponibles. Aujourd'hui, il est clair qu'il s'agit vraiment d'une volonté politique et on attend que les décideurs et les industriels change de paradigme. On ne peut pas attendre que la tonne atteigne des sommets pour résoudre la crise climatique. La crise climatique, elle est actuelle. On voit aujourd'hui les conséquences partout dans le monde. Donc c'est vrai qu'il faut une véritable volonté politique. On ne peut pas se laisser aller au prix du marché et attendre que simplement certaines technologies soient rentables pour les appliquer. Il y a des technologies aujourd'hui qui existent, qui sont rentables et c'est celles-ci qu'il faut d'ores et déjà mettre en œuvre et qui sont déjà mises en œuvre mais qui doivent être vraiment développées.
Selon Catherine Richardson, professeure à l'Université de Copenhague et responsable du panel intergouvernemental sur le changement climatique, si le captage carbone peut être utile dans une période de transition, il n'est pas une solution et l'avenir appartient aux énergies renouvelables.
Je pense que tous les pays, toutes les régions vont avoir besoin de leur propre bouquet énergétique, de leur propre panier avec différents œufs dedans. On peut y arriver avec les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, la biomasse, l'hydraulique, la géothermie. Au Danemark aujourd'hui, les énergies renouvelables produisent 20% de nos besoins en énergie. Et nous essayons de réduire nos besoins énergétiques et augmenter la part des renouvelables. Le Danemark a par exemple déjà énormément investi dans l'éolien. Le vent sera une part importante de notre bouquet énergétique. Mais le coût du solaire baisse et le solaire a aussi beaucoup d'avenir. Je n'essaie pas de choisir la meilleure énergie. Notre travail dans cette commission est de définir les différentes énergies nouvelles et ensuite de laisser le marché décider quelle énergie est la plus adaptée. Là où il y a un problème, là où il nous faut un investissement public, c'est dans la transformation des infrastructures. Pour que l'énergie soit distribuée de façon décentralisée à partir de différentes sources, comme l'éolien et le solaire, et non plus à partir d'une seule grosse source, comme les centrales nucléaires ou les centrales à charbon. Ce qui m'inquiète en fait, c'est que les discussions européennes en ce moment portent sur un accord européen entre les différentes énergies, et je ne pense pas que cela soit possible. Chaque pays aura son propre bouquet énergétique. Je pense qu'en France, vous avez beaucoup plus de soleil que nous, que vous pouvez compter sur le soleil beaucoup plus que nous ici au Danemark.
Que pensez-vous du captage du CO2?
Je pense que le captage du CO2 peut être important dans le court terme, mais cela ne traite qu'un symptôme et non pas la cause du problème. Ce sera difficile de changer de cap, de faire un virage à ces navires géants dans lesquels nous sommes embarqués. Je pense aussi que le niveau de CO2 dans l'atmosphère est vraiment trop élevé en ce moment. Nous avons besoin de le réduire. Et le captage carbone, surtout dans les centrales qui utilisent la biomasse, permet de retirer le CO2 dans l'atmosphère. Je pense donc que dans le court terme, le captage carbone sera important. Je ne sais pas combien de temps ce court terme durera, mais je ne crois certainement pas que nos arrière-petits-enfants vont encore brûler du charbon et du pétrole pour capturer le CO2 et le cacher sous le sol. Ce n'est pas une solution. Ça fait partie de la période de transition dans laquelle nous entrons maintenant pour arriver à terme à une économie sans dioxyde de carbone.
Que se termine pour aujourd'hui votre rendez-vous quotidien avec l'environnement. Demain, nous parlerons de l'état de la France en 2030. Recul des plages, restera-t-il du vin dans le Bordelais ? Que deviendront nos habitations, nos villes, nos modes de transport ? Tout cela, nous le verrons avec Frédéric Donnet, auteur d'un ouvrage sur la France en 2030.
À demain donc, même planète, même heure.